Collective, l'émission qui explore les questions féministes, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7. Bienvenue, vous écoutez le nouvel épisode de la Collective. On se retrouve pour une saison pleine de questions et de motivation. Aujourd'hui avec Hello.
Salut.
Alizé.
Salut.
Et Domi.
Salut. Au programme de ce premier numéro, on parlera de robes et d'idérance. On entendra des cartes postales et on se racontera des histoires. Toute la classe n'est pas encore au rendez-vous, mais pour commencer, nous avons un petit message venu des sommets.
Chère collective, je vous envoie mes amitiés depuis la Morte, en Isère, où je garde un troupeau de brebis. Le soleil brille, les vautours tournoient au-dessus de nos têtes, les patous roupillent dans les myrtillers. J'aperçois parfois un couple d'aigles royales et les brebis broutent paisiblement. J'en oublierai presque la rentrée 2023. Mais en Crète, quand mon téléphone a suffisamment de réseau, j'apprends qu'Atal a interdit le port de l'abaya dans les établissements scolaires. Comme beaucoup de monde, j'imagine, je googlise abaya pour savoir de quoi il s'agit. Tout ça quelques mois après avoir emmerdé les lycéennes à propos du crop top. Décidément, on passe toujours beaucoup d'énergie à s'occuper de comment les femmes doivent s'habiller et bien peu à s'occuper des violences sexistes et sexuelles. Le week-end, je descends faire mes courses et dans le magasin de producteurs, la personne qui sert le jambon pèse contre les véganes et, entre guillemets, ceux qui ne mangent pas de porc, trouvant l'idée d'un repas végétarien par semaine dans les cantines inadmissible. J'abandonne mon projet de raclette pour acheter du tofu, maigre vengeance. Puis au café de la Morte, c'est le retraité à moustache que j'avais pris pour un gentil fan de José Bové qui explique tranquillement qu'il y a, toujours entre guillemets, beaucoup trop de noirs. Je boue et rêve que lui et ses semblables soient grands remplacés le plus vite possible. Je remonte à l'estive et la source s'est tarie parce qu'il fait beau tous les jours et je déteste tellement 2023. Mais septembre 2023, c'est aussi mon voisin berger qui recadre le barman en pleine sortie sexiste. Et faut bien dire que j'avais jamais trop misé sur les mecs bergers pour combattre le sexisme. C'est aussi la SGT, syndicat des gardiens et gardiennes de troupeaux, qui prend de l'ampleur et fait que les bergers et les bergères sont moins seuls dans leurs négociations avec les patrons. Et à la SGT, il y a une très grande majorité de femmes et le féminisme, l'antiracisme et l'anticapitalisme sont posés comme valeurs fondatrices. 2023, c'est aussi la première année où quand je monte en Crète chercher du réseau, je n'attends pas le message d'un garçon qui répond trop rarement, mais d'une fille qui en plus a le mérite de répondre. C'est la sororité avec Lila, mon binôme border collie, aussi névrosée que déterminée, devant qui même le gros bouc ne fait pas le malin. Septembre 2023, c'est le terrible anniversaire de la mort de Mahsa Amini, mais aussi celui du début du mouvement de contestation en Iran. Le soir, à la cabane, je pleure en écoutant barailler, un des hymnes des manifestations, et en pensant au courage des Iraniens et plus encore des Iraniennes qui ont protesté et continuent encore à le faire. Et je me souviens avoir pleuré l'an dernier, dans cette même cabane, en écoutant cette même chanson, mais alors pleine d'espoir. Dans l'espoir, c'est aussi l'éleveur, 1m90, sans doute une centaine de kilos, avec un accent isérois à couper au couteau, qui envoie valser tous mes clichés, lorsque soignant une brebis blessée, il lui dit « Je suis vraiment désolée ma petite, ça va te faire mal, mais promis, promis, ça ira mieux après, c'est pour te soigner. » C'est l'amour pour les brebis, pour la montagne, le désir d'oublier ce qu'il y a en bas et de rester avec le troupeau, les chiens et les vautours. Mais c'est aussi avoir envie d'exploser la radio, lorsque j'entends Macron dire qu'il adore la bagnole, alors qu'ici, ma source ne coule toujours pas. C'est ne pas pouvoir aller à la manif contre les violences policières. C'est la frustration de ne pouvoir que pleurer ou mettre des coups de poing dans les radios. Et le besoin de redescendre pour avoir une prise sur le monde, aussi infime soit-elle, par exemple en retrouvant les copines du collectif féministe pour organiser la journée du 8 mars à venir. Allez, bon baiser de la Morte et à bientôt.
Merci Vanessa. On écoute Barailler maintenant. برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای
این هوای آلوده برای ولی عصر و درخت های فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ های بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Alors comme ça, l'urgence de la rentrée, pour notre gouvernement, ce n'est pas l'escalade de la répression policière, le pays à sec, les canicules qui s'enchaînent, les associations d'aide alimentaire en péril à cause de l'explosion de la pauvreté, ou nos services publics qui s'effondrent. C'est l'abaya.
Ils ont interdit l'abaya à l'école. Ok, c'est ça la plus grande menace en ce moment pour le gouvernement. Des tuniques portées par des collégiennes et des lycéennes.
Bon bah, une loi de plus pour contrôler le corps des femmes et leur apparence, quoi. On se donne encore le droit de leur dire comment elles doivent le couvrir, ou le découvrir, pour leur bien, évidemment. Et quand on y réfléchit, c'est pas évident comme dosage. Le voile, trop. Le burkini, trop. Torse nu, pas assez. Nu, ça dépend. Si c'est pour vendre des yaourts, c'est bon, mais sinon c'est pas assez.
Et oui, heureusement qu'il y a des mâles bien pensants, et surtout bien intentionnés, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça.
Bon, on rigole, mais cette diversion, elle a de quoi nous inquiéter, vraiment. C'est pas anodin. Parce que si c'est une attaque aux droits des femmes à disposer de leur corps, ça vient surtout, une fois de plus, stigmatiser une certaine partie de ces femmes. Une partie qui l'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Les femmes supposées musulmanes, autrement dit, les arabes.
Le problème n'est tellement pas nouveau qu'il nous a fait penser à un billet écrit en 2019 sur le blog québécois « Je suis féministe » par Amel, québécoise d'origine algérienne. Mais en fait, on aurait pu choisir un texte d'il y a des siècles, tellement ça existe depuis la nuit des temps. Nous allons en lire un extrait. Le 17 avril dernier, en déroulant mon feed Facebook, j'ai été agréablement surprise de tomber sur la vidéo de trois femmes, dont l'une d'elles portait une robe toute spéciale pour moi. Une robe qui me rappelle des bons moments en Algérie près de mes grands-parents, mais aussi qui me rappelle l'histoire d'un peuple hors du commun, celui de mes ancêtres. Il s'agissait de la robe traditionnelle kabyle, une robe riche en broderies colorées représentant la richesse et la jovialité de cette culture qu'est la mienne. J'ai eu un élan de fierté en voyant cette robe portée par une femme sur l'émission de Radio-Canada. J'ai été rapidement désenchantée. Ces femmes revendiquaient la laïcité à la française, c'est-à-dire pas de femmes voilées à l'emploi, point final. Celle qui portait la robe kabyle affirmait à un moment que, pour les femmes libres, féministes, ce voile, c'est le drapeau international de l'intégrisme islamique. Non, madame, je suis désolée. Mais porter cette robe et affirmer ces propos sont une injure à la culture de mes ancêtres. Que vous le voulez ou non, les ancêtres kabyles portaient cette robe fièrement, bien avant la présence de courants islamiques en Algérie. Ainsi, la pudeur faisait partie de notre culture autant, sinon plus, que dans la religion musulmane. Oui, il y a eu un courant d'intégrisme islamiste en Algérie dans les années 90, qui a coûté la vie à des milliers de personnes et dont les séquelles et traumatismes subsistent encore aujourd'hui. Des femmes non voilées et voilées ont été victimes de multiples violations à leurs droits fondamentaux. Il ne faut pas oublier également la colonisation française qui a duré plus de 130 ans en Algérie et dont les séquelles et traumatismes subsistent encore aujourd'hui. Pendant ce siècle noir, des femmes algériennes étaient objectifiées et dévoilées par les colons français. Des femmes couvertes, qui portaient par exemple le hayek algérois, étaient mises en captivité et leur voile leur était enlevée, sans leur consentement, pour les humilier et affirmer la domination du colonisateur. On faisait des tableaux d'elles, peintes dans des positions déplaisantes afin de les rendre érotiques et ainsi atteindre leur dignité. Ce sont des événements qui ont traumatisé la génération de mes grands-mères à vie. Ce geste d'enlever le voile à certaines femmes a donc une connotation bien particulière, traumatisante et brutale, pour les descendantes de ces femmes, dont moi. Associer le fait de cacher ses cheveux à l'intégrisme islamique des années 90 est comme associer le port de la jupe courte, portée par ma mère dans les années 70-80, à la colonisation française. Il est facile de faire des liens aussi simples et d'apparence cohérents, mais la réalité est toutefois beaucoup plus complexe, et au final, il appartient à chaque femme de décider pour elle-même de sa façon de se vêtir. Il est cruel de forcer une femme à porter ou à enlever un vêtement, car cela porte atteinte à sa dignité. Avoir une identité multiple requiert d'avoir le recul, de choisir sa bataille et de la revendiquer dans le bon contexte. Avoir une double nationalité, c'est aussi faire la part des choses et ne pas importer de conflits d'ailleurs ici. Et surtout, être libre, c'est assumer la responsabilité de garantir et de vouloir la liberté à toutes et à tous, même si on ne partage pas la même vision des choses.
Ces nouvelles consignes posent un autre problème et pas des moindres. Il ne s'agit pas de décrire objectivement une tenue comme interdite. Il est question du port d'une tenue dans une intention particulière. Donc, une même tenue peut être portée par deux personnes et seule l'une des deux peut être obligée d'en changer au risque de se voir refuser l'accès à l'école. Mediapart a d'ailleurs recensé dans un article de nombreux cas où ça s'est produit dès la rentrée. Et ça peut dépendre complètement du jugement arbitraire d'un prof, du principal ou d'un personnel d'accueil.
Donc on voit que tous les ingrédients sont réunis pour aboutir à encore plus de discrimination, en toute impunité. Une fois de plus, on tente de diviser les femmes pour neutraliser leur lutte. Alors à nous, en tant que féministes, de faire en sorte que la lutte antiraciste ne soit pas reléguée au second plan. Parce que la vraie laïcité passe par le respect et la liberté de tous et toutes, sans exception.
Si votre fille passe des heures à lire Angela Davis et qu'elle ne se maquille plus, si elle arrache des murs de sa chambre les posters de Robert Redford et si elle fait montre d'une pudeur excessive et brûle ses mini-jupes, contactez le FBI d'urgence. Vous taquinez votre assistante, son cardigan boutonné jusqu'au cou, n'est-il pas le signe qu'elle est sur le point de rejoindre la lutte armée ?
C'était un extrait du livre de Lola Lafon, Merci Marie Patti, lu par l'autrice elle-même à la Maison de la Poésie en 2017. Et maintenant, on écoute Wrap My Hijab de Mona Haidar.
What the hair look like, bet the hair look nice. Don't that make you sweat, don't that feel too tight. Yo, what your hair look like, bet your hair look nice. How long your hair is, you need to get your life. You only see oriental, you steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation, I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world, love women every shade of hair. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade of. Wagon.
sisters, these mobsters, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these Sunnis, these Shiris, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.
Alors que les partis d'extrême droite tentent d'afficher une image plus lisse et que les youtubeuses réac fleurissent sur les réseaux, on souhaitait rappeler à quel point extrême droite et féminisme sont irréconciliables.
Si on prend par exemple la séparation des rôles en fonction du genre, contre quoi se battent les féministes depuis toujours en fait. Repensons au célèbre mantra « Travail, famille, patrie » de Pétain, qui garantissait que chacun chacune allait rester à sa place, à savoir « la femme assure le bon fonctionnement du foyer, élève les enfants et se consacre au bon déroulé de la carrière de son mari ». Eh bien, encore aujourd'hui, l'extrême droite nous crisse aux oreilles ce refrain « La place de la femme, c'est à la maison ». Entre Marine Le Pen qui déclare que le progrès des femmes, c'est de rester à la maison en 2012. Et le député RN Jocelyn Dessigny, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qu'une femme au foyer est mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, nous ne sommes pas si loin que ça du gouvernement de Vichy en matière de féminisme. Alors il paraît que ça libérerait des emplois. Nous, on a beau chercher, on n'arrive toujours pas à trouver comment une femme au foyer peut libérer plus d'emplois qu'un homme au foyer. Alors soyons clairs, on interdit à personne de rester à la maison, on ne prône pas le travail comme valeur de base, par contre, on se bat pour que chacune puisse choisir, et pas seulement une minorité de femmes.
Côté avortement, les partis conservateurs ou d'extrême droite attaquent systématiquement et en priorité ce droit quand ils sont au pouvoir. Ce fut le cas en Pologne ou aux États-Unis récemment. Et en France, c'est le Rassemblement national qui s'est opposé à l'allongement du délai légal pour avoir recours à une IVG, et puis qui attaque régulièrement le planning familial.
Un autre phénomène auquel on assistait sous le fascisme, c'était la disparition des femmes dans la place publique. Or, on sait que le Rassemblement national s'oppose à tous les quotas, à la parité en politique et à la discrimination positive. Mais sans ces quotas, les femmes, malgré leurs compétences, n'accèdent pas à ces postes qui permettent de prendre part au pouvoir. Donc, elles ne sont pas représentées dans la société, sont empêchées d'accéder au pouvoir, et donc, c'est un cercle vicieux. Alors, nous direz-vous, on retrouve pourtant des femmes au sein des partis d'extrême droite. Et nous vous répondrons, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des femmes issues de la bourgeoisie, blanches, issues de lignées familiales, connues pour celles qui ont la parole au Rassemblement national. Et elles occupent une place bien en vue qui permet d'adoucir l'image du parti.
En fait, on constate très facilement en se penchant sur les programmes que les rares fois où les questions féministes sont abordées, c'est systématiquement pour appui à propos racistes. Par exemple, dans sa lettre aux Françaises, publiée dans Le Figaro à l'occasion du 8 mars dernier, Marine Le Pen disait ceci. « J'inscrirai les harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels et déciderai l'expulsion des étrangers qui se livrent à ces pratiques outrageantes. » Bon, là au moins c'est clair, on voit bien comment le féminisme est instrumentalisé et déformé pour appuyer des propos xénophobes. On le sait bien, le sexisme et le harcèlement de rue en particulier, ça traverse l'ensemble de la société, donc on ne résoudra rien de cette manière. La politique anti-immigration défendue par le Rassemblement national, par contre, elle aurait un vrai impact négatif sur la vie des femmes. Pour comprendre comment les frontières fragilisent mais aussi tuent les femmes qui tentent d'atteindre l'Europe, on vous conseille deux choses, l'épisode « Migrantes et combattantes » d'un podcast à soi sur Arte Radio et la lecture des « Damnées de la mer » de Camille Schmoll.
Il y a une autre absente au programme, l'écologie. Et nous, on est tenté de faire le lien entre écologie et féminisme parce que ces deux luttes nous semblent avancer main dans la main. On soutient à fond ce slogan scandé en manif « Ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires à conquérir ».
Le féminisme vise à faire disparaître l'oppression des femmes, ce qui inclut forcément lutte des classes, lutte antiraciste et lutte écologiste, si l'on veut que cela concerne toutes les femmes. En l'état actuel des choses, c'est exactement l'inverse qui est prôné dans les programmes politiques des partis conservateurs, mais surtout dans ceux des extrêmes droites. Preuve en est le Féministomètre, publié en 2022 par l'asso Oser le féminisme, qui classe les partis en fonction de leur engagement féministe, réel ou pas, seulement affiché. C'est édifiant. Alors on essaie d'enlever la poudre qu'on nous jette aux yeux, on bouche nos oreilles assourdies par la com' politique et on regarde concrètement ceux qui se votent en dehors des périodes électorales. Et pour changer d'ambiance, c'est Hot Summer de Gur avec deux R.
I've never wanted to hold anybody's hand in the summer. I think just the idea of this sweaty body parts freaked me out. So yeah, I did get some aromas.
Vous avez pu le constater, l'été ne nous a pas inondé de bonnes nouvelles. Alors pour compenser, nous avons imaginé le courrier que nous aurions rêvé recevoir. On vous propose à travers quelques cartes postales un petit tour d'Europe d'espoir et d'avancer en tout genre. Alors Élodie, par quelle carte postale commence-t-on ?
Eh bien c'est une carte de Anna Livia qui nous écrit de Pérouse en Italie. Lors de la conférence sur la famille organisée en mai à Rome, le pape et la première ministre italienne ont clamé d'une seule voix que, certes, la famille c'est important, mais il est temps de laisser le choix d'avoir ou pas des enfants, d'avoir la famille qu'on décide, et d'œuvrer pour le mariage pour toutes et tous. Événement remarqué et remarquable, des mesures sociales vont être votées. Revalorisation des salaires des métiers féminins, congés parentaux étendus et partageables entre les deux parents, ouverture des crèches et des services à l'enfance pour en finir avec le cadre archaïque de la femme à la maison et l'homme qui travaille. Anna Livia nous raconte que la conférence a redonné la parole aux plus pauvres et aux précaires. Le pape a quant à lui rappelé que Jésus était né nu et pauvre et qu'il était indécent de voir tant de richesses s'accumuler entre les mains de quelques nantis. La charité et quelques confessions ne sauraient excuser l'arrogance et le mépris de ces riches. Et il a rajouté que l'intégrisme n'est pas toujours là où on l'attend. après avoir souhaité le retour du rock et notamment des Riot Girls dans les églises. Merci Anna-Livia pour cette carte postale réjouissante.
Moi j'ai bien aimé celle-ci. Elle a été postée de Pologne et c'est Anya qui nous raconte un été de folie. Chères toutes et tous, ici l'été s'achève en fanfare. Nous avons pu retrouver la joie et la fougue. Par la lutte, le droit à l'avortement a été reconquis. Nous sommes à nouveau libres de décider pour nos corps. Les idées rances des pro-life font reculer. L'avortement est un droit inaliénable, les délais pour le pratiquer sont rallongés et il est remboursé par la sécurité sociale. La société tout entière manifeste son attachement à la liberté des femmes.
Toujours dans l'Europe de nos rêves, c'est la fin des financements des organisations anti-choix et anti-genre. L'avortement est dépénalisé en Europe et dans le monde entier. Tout cela dans une charte des droits inaliénables. Les parlementaires ont clamé haut et fort que le corps des femmes est un enjeu de pouvoir et de contrôle. Et en 2023, la poussière et les vieilleries, c'est fini. Réjouissons-nous de ce ménage. Mais une autre carte postale nous parle de la France, je crois.
Oui, c'est Clara qui s'étonne de voir à quel point l'égalité n'est plus un vain mot. On trouve partout en France des duos hommes-femmes, dans les postes de ministres, de députés, de conseillers municipaux. Certains députés ont failli s'étrangler, mais d'autres admettent. Il est très difficile de mettre au centre de notre discours l'égalité hommes-femmes quand on reste aux manettes et qu'on ne sait pas faire une lessive. Emportés par leur enthousiasme, des mesures réelles ont été prises pour l'égalité salariale. Elles peuvent s'habiller comme elles veulent et en plus elles peuvent parler fort. Les amis de Pétain ont du plomb dans l'aile. Travail, famille, patrie est en passe de disparaître pour salaire à vie, amitié, hospitalité.
Mais rien ne ternit ce ciel sans nuages. Des nouvelles de la Grèce ?
Oui, une initiative remarquable. Le budget alloué à Frontex pour défendre les frontières de l'Europe est désormais alloué à l'accueil inconditionnel et digne de tous les migrants et toutes les migrantes.
Ouais, ben on n'a pas fini de lutter si on veut que ces cartes postales deviennent réalité. S'il y a bien un domaine où de nombreux pays sont d'accord en Europe, c'est l'attaque permanente sur les droits des femmes. Qu'ils se revendiquent ouvertement conservateurs ou non, force est de constater que les idées réac ont le vent en poupe.
Bon, il reste tout de même un pays où il y a des avancées réelles et prometteuses, et ce n'est pas grâce au parti conservateur qui voulait restreindre le droit à l'avortement. Mais en Espagne, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles s'accompagne de mesures concrètes. Un pacte d'État a été voté avec 1 milliard d'euros, et des changements profonds sont en cours dans la justice, qui aboutissent à une diminution de 24% du nombre de féminicides depuis 2004. Bon, c'est pas une raison pour s'emballer et voler des baisers, hein. Va falloir apprendre la définition du mot consentement dans le milieu du football.
She are-
C'était un morceau de Bikini Kill, Rebel Girl, bientôt dans toutes les églises. On continue avec des idées du passé pour le futur. Je suis une fille sans histoire. La collective invite à l'exploration des questions féministes et je me prête volontiers au jeu. Si être féministe, c'est embrasser le combat pour l'égalité femmes-hommes, une idée s'immisce et fait son chemin dans ma tête. Quelle place occupent les femmes dans les histoires et les récits du passé qui pourraient expliquer aujourd'hui leur invisibilité? Pour reprendre le titre d'une pièce d'Alice Zénitaire, en fait, je suis une fille sans histoire. Dans la littérature classique, il n'existe pas d'héroïne valeureuse et intrépide. On peut compter sur les doigts d'une main les femmes qui affrontent le pouvoir, déjouent les complots ou qui brillent par leur impertinence. Une histoire, c'est souvent un mec qui fait des trucs. Et si ça peut être un peu violent, si ça peut inclure de la viande, une carabine et des lances, c'est mieux, comme l'écrit Alice Zénitaire. Rares sont celles qui se jouent des convenances et des attentes liées à leur sexe. La construction romanesque est associée au désir d'accomplissement et de défi des hommes. Difficile de trouver des héroïnes qui ne soient pas des cruches dans l'ombre du héros, ou encore qui ne font qu'attendre le prince charmant, nimbé d'innocence et de naïveté. Difficile donc d'en faire des modèles ou des figures auxquelles s'identifier, en tant que fille. Je préfère me prendre pour D'Artagnan, le capitaine Fracasse, Sherlock Holmes ou Robin des Bois, plutôt que pour Madame Bovary. Surtout quand on se construit, qu'on rêve de rebondissements et d'aventures trépidantes, et qu'on n'a pas la cheville fine ou la taille de Vénus. Mais n'y a-t-il pas d'autres solutions? Inventer des histoires vivantes, qui seraient autres, des personnages qui feraient autrement, pour oser se dire « je ne suis pas une fille sans histoire ». Mais si je peux être une fille sans histoire avec un petit H, c'est que je suis une fille sans histoire avec un grand H. Les récits historiques mettent en scène de grands hommes, à l'exception de Jeanne d'Arc, ce qui se passe de tout commentaire. Mais que faisaient les femmes au moment de la Réunion, de la Révolution, des guerres mondiales, de la Commune, au Moyen-Âge, en 68, au moment des indépendances? Peut-être qu'elles tricotaient, cuisinaient, pétrissaient, bottes et soupières, bref, faisaient rien de la journée. En fait, non. Les femmes ont une histoire. Elles ne surgissent pas de manière éphémère et sporadique dans le roman des vainqueurs pour ensuite disparaître dans les oubliettes de l'histoire. Elles apparaissent avec tous les sans-voix, les sans-dents, les invisibles, les oubliés que l'histoire construit. Elles racontent d'autres histoires et transforment nos représentations. Même les pages des manuels scolaires leur laissent une petite place. Georges Sand, Louise Michel, Olympe de Gouges, Rosa Parks, Angela Davis s'y retrouvent, car on ne saurait les cacher. Ces questions titillent, agacent et renversent les évidences. Alors non, je ne suis pas une fille sans histoire, et ce sont ces histoires oubliées ou cachées que nous voulons vous raconter tout au long de l'année. Ce texte est largement inspiré des ouvrages de Alice Zénitaire, Je suis une fille sans histoire, Ursula Le Guin, Théorie de la fiction panier, et Mathilde Larrère, Rage Against the Machisme.
Et pour commencer, voici un extrait de la BD Les Culottés, de Pénélope Bagieux, mise en son par Fréquence Furie Furieuse, une émission féministe sur Radio d'ici à Saint-Julien-Molin-Molette.
Il fut une époque où, dans la Grèce antique, les patientes avaient un lien de confiance avec des femmes médecins. Mais ces doctoresses, soupçonnées de pratiquer des avortements, se sont vues interdire l'exercice de la médecine par les Athéniens.
Quelle bande de sorcières!
Il faut que ça tient un respect pour
mais
la
vie. Ça suffit. On préfère encore les laisser morfler, tiens.
Aucun respect pour la vie.
On préfère encore les laisser morfler, tiens.
Il faut que ça cesse.
Plutôt que de faire venir des médecins hommes, les femmes préfèrent alors se débrouiller entre elles. C'est dans ce contexte qu'Agnodis naît à Athènes, il y a 2367 ans environ. Enfant, elle voit des femmes de sa famille souffrir et même certaines mourir en couche. En grandissant, elle est révoltée par cette situation absurde. Prétextant une visite à une amie malade, elle embarque pour un long voyage. En réalité, elle part en Égypte, où les filles sont autorisées à étudier la médecine.
T'as répondu quoi à la question 8?
Ablation du foie. Et toi?
Sa solide et secrète formation en poche, elle revient en Grèce, bien décidée à venir en aide aux femmes d'Athènes.
Enfin, c'est bien joli, mais je n'ai toujours pas le droit de travailler.
Elle se résout alors à se déguiser en homme pour pouvoir exercer. Elle rencontre d'abord les mêmes réticences que ses confrères. Mais un jour, elle sauve la vie d'une de ses patientes, qui parle à ses amis de son médecin pas comme les autres.
Tu connais un bon gynéco, toi ?
Oh oui, j'en ai un super.
Non, mon gynéco m'a sauvé la vie.
Le bouche à oreille fait son œuvre et Agnodis devient très vite le gynécologue d'Athènes.
Il est tellement doux, c'est appréciable.
Va le voir. Il m'a montré mon col de l'utérus.
Il m'a montré mon clito.
Il est tellement respectueux.
Va le voir. Il est parfait pour le suivi de grossesse.
Il est vraiment à
l'écoute. Il a mis au monde mes 12 enfants et j'en suis ravie.
Va le voir.
Il respecte mes choix. Mon corps, c'est mon droit. Et il le sait.
Tiens, voilà son adresse. Va le voir.
Merci.
Les autres médecins commencent à s'agacer de ce mystérieux monopole et finissent par accuser Agnodis d'abuser de ses patientes mariées.
De quoi ?
Elle est jugée par un tribunal de mari et de médecins.
Le prévenu est accusé de profiter de ses fonctions pour agresser sexuellement ses patientes mariées. Monsieur, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Acculé, Agnodis leur révèle la preuve indiscutable de son innocence.
Je n'ai rien à déclarer, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Et hop.
Au nom de Zeus. Nom de Zeus, femme. Mais c'est une femme.
Quelle honte. Quelle honte.
C'est une femme, c'est un vrai scandale.
Encore plus ulcéré, et surtout humilié d'avoir été dupé, il la condamne à mort pour exercice illégal de la médecine.
On lui coupe la tête.
C'est alors que débarque une foule de patientes en colère. Elles incendient leur mari et font remarquer au médecin qu'il n'avait qu'à pas être aussi nul.
Ni mari, ni Zeus, ni maître, ni mari. Avortement libre et gratuit. Sans douleur. Avaler docteur. Accouchement sans douleur. Avaler docteur. Avaler.
Honteux, ils finissent par acquitter l'accusé et réautorisent les femmes médecins à Athènes.
Et maintenant, on vous laisse avec Chaud l'hiver de Isa Yasuke.
Mais juste avant de vous quitter, il nous reste deux petites choses à vous dire. La première, c'est que mercredi dernier a eu lieu le pot de rentrée du collectif du 8 mars. C'était l'occasion de rencontrer les personnes qui ont envie de rejoindre le collectif et puis de parler un peu de la suite. Si vous avez loupé l'événement, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse mail suivante. Collectif 8mars-6aubenas@riseup.net. La deuxième, c'est qu'il est encore temps d'aller découvrir l'expo Terrain de jeu au château d'Alba. C'est une exposition collective qui réunit les œuvres de 5 artistes ardéchoises, entre photos, dessins et écritures. On vous conseille fortement d'y aller y faire un tour, et vous pourrez notamment y retrouver le travail de Vanessa, que vous avez entendu au début de l'émission. Son travail s'appelle « Devenir bergère », parce qu'en plus de garder les moutons et de participer à la collective, elle est aussi photographe. Donc l'expo, c'est jusqu'au 1er novembre, et c'est au château d'Alba la Romaine. Et nous, on vous dit à bientôt.
Ce soir, je suis du Margot Spell, pas de déguisement cosplay. C'est réel, on se cache derrière des masques, c'est pas étonnant qu'on se perde. T'as raté ton strike, alors mise tout sur ton sperme. Mais de pas le connaître plutôt que d'avoir un bâtard pour père. J'ai pété les câbles combien de fois, ça m'a pas servi de leçon. L'effet d'une douche froide, c'est pas un effet juste que t'as plus d'eau chaude. Au final, j'ai pardonné leur faute, la haine c'est là, s'en retient bien que les pires. C'est ce qui te passe la crème, fais gaffe au lotion.
Ce soir, je suis du Margot Spell.
Écoute, ceinture, ça tient chaud l'hiver. Au moins, on bravera le froid. Le vent divin mais pas d'hiver. Pour être honnête dans le fond, une question de temps, le temps de s'y faire. Tu ressens plus rien à la fin. Les coups de ceinture ça tient chaud l'hiver. Mais on s'est compris dans le fond.
J'entends des histoires qui me percent le cœur, je crois que le tien aussi. Il a 40 ans, mais 14 ans, c'est sa fucking limite. Comment braquer le mal et tous ces vies, c'est pas vital d'être en survie. Le cœur bat, mais le corps est sans vie. RAF, des plats plus de saveur, faut de l'air ici, c'est sous vide. C'est marquant comme des coups de ceinture, c'est sûr, tu feras pas la même deux fois. Ça répond mal et plus ça dure, t'étais bête comme ça même sans faire d'effort. Aucun doute quand les choses saturent, c'est l'appel de la foi qui téléphone.
Les coups de ceinture, ça tient chaud l'hiver.
Au moins on bravera le froid.
Vive le vent divin, mais pas d'hiver.
Pour être honnête dans le fond,
une question de temps, le temps de s'y faire.
Tu ressens plus rien à la fin.
Les coups de ceinture, ça tient chaud l'hiver.
Mais on s'est compris dans le fond.
Coup de ceinture, ça tient chaud l'hiver.
Au moins on bravera le froid.
Vive le vent divin, mais pas d'hiver.
Pour être honnête dans le fond,
une question de temps, le temps s'y faire.
Tu ressens plus rien à la fin.
Les coups de ceinture, ça tient chaud l'hiver.
Mais on s'est compris dans le fond.